Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa les états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'ouverture au centre financier de Kinshasa. Pour le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutsamba, cette activité marque une nouvelle étape dans la réforme de l'appareil judiciaire congolais. Elle vise à évaluer la mise en œuvre des recommandations des états généraux de la justice de 2015, à proposer des solutions concrètes pour renforcer l'indépendance de la justice et à tracer une nouvelle feuille de route pour une justice plus efficace et équitable. Que pensez-vous de l'organisation des états généraux de la justice? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 6 novembre 2024. Participe au débat Aimé Kilolo, expert auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Il est ancien conseil principal de la défense auprès de la Cour pénale internationale, avocat au barreau de Bruxelles en Belgique et du Haut-Katanga en RDC. Maître Kilolo, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce plateau.
Henri Danda est aussi avec nous dans ce débat. Il est secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo. Henri Danda, bonsoir.
Bonsoir.
Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. L'ICOCO en sigle est également avec nous dans cette émission. Ernest Mpararo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes déjà très très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Blaise Condé depuis Matadi au Congo central. L'organisation des états généraux de la justice est une bonne chose, mais notre pays souffre de l'application et suivi des résolutions parce que déjà ceux de 2015 n'ont jamais été appliqués. À mon avis, il était impérieux d'évaluer d'abord les niveaux d'exécution des résolutions de 2015 avant de penser aux travaux de ce jour dans les résolutions souffriront encore d'application. Guy Kambouyi Mbanza à Kananga, au Kasaï central. Je salue personnellement l'organisation des états généraux de la justice, mais il y a un constat malheureux qui démontre que ceux qui ont été associés à ces états généraux sont plus politiques que techniciens, comme les praticiens qui œuvrent jour et nuit pour la justice. À Kananga, au Kasaï central, vous nous suivez sous la 93.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Les travaux des états généraux de la justice qui s'ouvrent vont poser un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent la justice congolaise. Sans remettre en cause les résolutions des états généraux de 2015, les participants sont appelés à en évaluer leur niveau d'exécution et de proposer des solutions idoines au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Magistrats, avocats, justiciables, huissiers et tout autre auxiliaire de la justice qui y prennent part ont été exhortés à dépassionner les débats dans un climat de confiance pour améliorer l'administration de la justice en RDC. Je vous propose de suivre ce reportage de notre envoyé spécial à ces assises, Jeff Ngoy.
Il faut déjà compter sur l'accompagnement de l'Ordre national des avocats. Son président, le bâtonnier national Michel Chebele, plaide pour des réformes profondes qui ne devront pas rester dans les tiroirs sans exécution.
Il faut faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination d'asseoir une justice saine et solide par des actes concrets.
Le Conseil supérieur de la magistrature tient à un débat franc dans le respect mutuel. Le président du CSM et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta,
voulons tous une justice impartiale et accessible à tous qui inspire confiance.
Selon le ministre d'État et ministre de la Justice, ces états généraux ne sont pas un cadre de confrontation entre son ministère et les magistrats.
Les états généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats, c'est plutôt un cadre des prises de conscience collectives. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution.
C'est sous ces acclamations frénétiques de la salle que Constant Moutamba déclare que les lois et la Constitution sont faites pour s'adapter aux nouvelles réalités qu'elles rencontrent.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Maître Aimé Kilolo, je rappelle que vous êtes expert auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Du 6 au 13 novembre se tiennent les états généraux de la justice sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ? Pourquoi ce thème ?»
Merci beaucoup. Il faut reconnaître que le chef de l'État, qui est aussi le magistrat suprême, dès son investiture, je vous parle ici du 24 janvier 2019, a rappelé la nécessité de la réhabilitation et la consolidation de l'état de droit en insistant sur la nécessité d'engager une lutte efficace et déterminée contre la corruption, les antivaleurs, notamment l'impunité. Donc, d'entrée de jeu, dès le premier jour de prise de fonction, voici le tableau qui nous est dressé par le chef de l'État en 2019, c'est-à-dire 5 ans, ou plutôt 4 ans, après les tout derniers États généraux qui avaient eu lieu en 2015. Par la suite, à diverses occasions, qu'il s'agisse des interventions lors des rentrées judiciaires ou lors des conseils des ministres ou même à l'occasion notamment des différentes interventions dans les médias, le président de la République, chef de l'État, qui est, faut-il le rappeler, le magistrat suprême, a dressé un tableau à chaque fois sombre de notre justice. Et il a notamment insisté en rappelant à chaque fois qu'en réalité, une justice juste et équitable doit être une réalité dans notre pays, et il demandait aux magistrats de ne pas céder à la tentation de corruption. Bref, ceci pour dire que un premier constat a été fait par le chef de l'État postérieurement aux derniers états généraux de 2015 pour dire la justice est malade, il est nécessaire, il est impérieux de trouver la thérapie, une thérapie de choc pour finalement tourner définitivement la page d'une justice corrompue. Alors, ici, il faut reconnaître aussi que avant d'en arriver à ce thème, avant d'en arriver aux états généraux proprement dits tels qu'ils ont démarré depuis le 6 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 13 novembre, un état des lieux, une évaluation a été faite de l'état d'avancement ou l'état d'application de la politique nationale de réforme de la justice. Parce qu'il faut savoir que après les états généraux de 2015, il y a eu à peu près 350 recommandations. Ces 350 recommandations ont été traduites et coulées justement dans la politique nationale de réforme de la justice avec des plans d'application pour pouvoir exécuter. Mais malheureusement, le constat est accablant. On ne va pas aller jusqu'à dire ça parce qu'il y a eu quand même des constructions d'un certain nombre d'infrastructures pénitentiaires avec l'aide notamment des partenaires techniques et financiers. Parce qu'il faut dire que au niveau de la mise en œuvre de la politique nationale de réforme de la justice, il y a bien sûr une part qui émarge du budget de l'État qui doit, à travers les trésors publics, financer la mise en œuvre, comme je disais tout à l'heure, la construction des infrastructures judiciaires, la construction des prisons, l'amélioration des conditions salariales, les conditions de vie des magistrats, parce que c'est aussi ça qui est à la base de ce système de corruption que l'on connaît aujourd'hui, du marchandage systématique des plusieurs décisions judiciaires, le monnayage de remise en liberté provisoire des détenus. Aujourd'hui, la privation, la délivrance des mandats d'arrêt provisoire à charge de plusieurs détenus, ben, ces détenus deviennent quasiment des otages financiers. Alors, mais ce n'est pas une pierre qui est lancée, évidemment, à l'ensemble de la magistrature, mais c'est un constat que le système est véritablement corrompu. Alors, pourquoi le thème qui est choisi? Parce que, en fait, l'idée, c'est de dire il faut réunir l'ensemble des acteurs de la justice qui vont bien au-delà de la magistrature. Les avocats, c'est pour cela qu'on a vu le bâtonnier national aujourd'hui. Nous avons les greffiers, nous avons les huissiers de justice, les services de police, les agents et officiers de police judiciaire. Mais quand on parle de la justice, on parle aussi de ce qui fait, qui permet à la justice de fonctionner, c'est-à-dire les lois. Raison pour laquelle on a vu aujourd'hui la présence du président, notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc le législateur est un partenaire important, mais on a vu aussi notamment la présence du ministre des Finances, parce que il faut dire que si en 2015 ça n'a pas été, c'est tout simplement parce que dans la formulation des recommandations, il y a un volet important qui a été oublié, c'était celui de la prévision budgétaire pour accompagner la matérialisation de recommandations qui étaient faites. Ça, c'est un. Deux, c'est aussi parce que il faut reconnaître que ces recommandations s'étaient placées à un niveau, je dirais, presque politico-stratégique en termes d'objectifs à atteindre plutôt que d'y aller comme c'est en train d'être fait maintenant, sous forme de formulation, de propositions, d'actions et des réformes concrètes.
Mais on a l'impression, Maître Kilolo, que c'est le même travail qui a été fait en 2015 que vous faites, que vous refaites encore une fois. Il y a eu 350 recommandations. Le diagnostic, c'était que la justice est malade. Aujourd'hui encore, on parle d'une justice malade. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même travail? Est-ce qu'on ne risque pas, vous ne risquez pas, vous qui participez aux travaux, de formuler les mêmes recommandations, peut-être dans des termes différents, mais les mêmes recommandations?
Non, je vous dis tout de suite non. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prend, par exemple, le volet qui a été oublié lors des recommandations de 2015, c'est toute la problématique de la justice pénale internationale. L'est de notre pays aujourd'hui, les populations souffrent de cette agression, notamment par le Rwanda, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de deux décennies passées, avec des millions de morts, avec des millions de déplacés, avec des propagations de maladies, des milliers de familles enfermées dans des camps de réfugiés. Mais il faut une réponse judiciaire internationale. Rien n'a été prévu justement en 2015. Donc il est aujourd'hui important, ça fait partie notamment des priorités de la mission du ministre d'État, de répondre justement à mettre en place un front judiciaire international contre cette agression. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui doivent être prises. Par exemple, un certain nombre de conventions ou d'accords de coopération judiciaire internationale avec notamment des partenaires étrangers pour pouvoir mettre la main sur de criminels internationaux qui continuent à s'abriter dans des pays étrangers. Il y a par exemple d'autres initiatives qui doivent être prises en termes de projets de loi de compétences universelles qui permettraient aux juridictions congolaises de se saisir des crimes qui sont commis, y compris à l'égard des étrangers qui continuent, bien entendu, à se tenir loin du territoire congolais, alors qu'en réalité, lorsque l'on remonte la filière de la complicité criminelle régionale et internationale, il faut bien reconnaître aujourd'hui que le véritable acteur, le plus haut responsable de crimes qui se commettent à l'est de notre pays, eh bien, provient essentiellement des personnalités, des acteurs qui se trouvent au Rwanda, en Ouganda, dans d'autres pays frontaliers, mais aussi en Occident. Il ne faut pas oublier que de nombreux rapports, notamment des Nations Unies, ont mis en évidence la complicité, notamment le réseau, l'alimentation d'un réseau criminelle d'exploitation de matières premières qui proviennent de zones de conflit et qui permettent d'alimenter notamment de multinationales comme Samsung, comme Apple. Donc il y a véritablement un problème qu'il faudrait résoudre, et il appartient aujourd'hui et le ministre de la Justice l'a compris, c'est que quand on parle de politique judiciaire du pays, ce n'est pas simplement de se limiter au système judiciaire national, mais c'est aussi d'intégrer tous les instruments juridiques internationaux qui sont à notre disposition et pouvoir le mettre en œuvre pour protéger non seulement l'intégrité nationale, la souveraineté du pays, mais aussi des millions de victimes qui continuent à croupir sous le coup de violations indescriptibles.
Alors, vous parlez des mises en œuvre. Le grand problème en RDC, c'est justement la mise en œuvre des résolutions, des recommandations. C'est comme l'a dit Maître Blaise Condé, le pays souffre de l'application et suivi des résolutions. En 2015, vous-même vous l'avez évoqué, c'est vraiment un pourcentage faible des recommandations qui avaient été appliquées. Qu'est-ce qui prouve que les recommandations qui seront issues de ces états généraux seront appliquées?
Ben, ce qui le prouve, c'est déjà le travail, et là vraiment je rends hommage au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a commencé immédiatement à mettre en œuvre un certain nombre de politiques qui bénéficient d'ailleurs d'une large adhésion populaire. Il y a une unanimité aujourd'hui qui se dessine autour de ces initiatives, par rapport notamment déjà à la surpopulation carcérale. On a vu qu'il a initié un certain nombre d'actions de désengorgement de la prison de Makala, qui était devenue un mouroir, qui est construit pour 1500 détenus, mais on y trouve près de 15 000 personnes, c'est-à-dire des violations systématiques des droits fondamentaux de l'homme. Parce que les personnes qui s'y trouvent, mais ils sont évidemment exposés à la propagation de maladies sur un espace extrêmement confiné. Vous savez que les standards international veut que dans une prison, dans une cellule, une personne humaine doit disposer d'un espace de vie d'environ 4 mètres carrés. Il y a une certaine quantité de lumière qui doit pouvoir entrer pour permettre
de vivre en dehors de maladie. Il pose des actes aujourd'hui, des actes qui sont applaudis par une certaine frange de la population, c'est ça qui vous fait croire que les recommandations qui seront issues de ces travaux seront bel et bien mises en application.
N'est pas ce qui me fait croire à moi, c'est ce qu'aujourd'hui tous les observateurs avertis, les experts en matière justement des questions de justice reconnaissent. Merci. En disant que c'est pour la première fois qu'on observe un ministre aussi engagé, je veux dire, dans la mise en œuvre d'actions qui répondent aux difficultés de la population. On a vu notamment la question de la bancarisation. Vous savez qu'à un moment donné, les frais de justice...
Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire, maître, on va vous redonner la parole. Vous n'êtes pas seul, vous êtes trois dans cette émission à participer au débat. On va donner la parole à Henri Dianda, qui est secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo. Henri Dianda, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des états généraux de la justice? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'il y avait nécessité aujourd'hui? C'est quoi l'opportunité pour vous que ces assises se tiennent?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je voudrais bien d'abord saluer tous les autres orateurs qui sont avec moi sur ce plateau. Et pour scruter cette question donc de l'ouverture des états généraux de ce jour. Alors, moi je commencerai, je crois que, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire comme aujourd'hui syndicat des magistrats? Parce que nous revenons sur la parole du chef de l'État. Le chef de l'État, je crois que a bien marqué les choses, il a bien marqué. Il a dit qu'il venait à ses assises, non pas comme pour simplement respecter un protocole, mais que c'était son engagement afin que l'on puisse avoir une justice grande, une justice qui vient pour, c'est vrai comme on dit, qui vient agrandir la nation, qui vient, comme on dit, comme dit la parole de Dieu, une justice qui regardit
notre nation. Alors, nous disons, avec aujourd'hui, après que nous ayons eu les États généraux en 2015, qui a fait à ce qu'ils puissent produire un document important de la politique nationale de réforme de la justice en 2017, qui partait de 2017 à 2026, je crois que 9 ans après la tenue des États généraux de 2015, c'est vrai, il était temps que l'on puisse évaluer pour voir, c'est vrai, vous l'avez déjà dit, là, je suis vieux maître Kilolo, qui a dit qu'il y avait plus de 350 résolutions qui avaient été prises, mais qu'il fallait voir comment est-ce qu'il fallait assurer le suivi. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi, je crois que vous avez eu aussi bon que il y a eu des groupes qui sont allés évaluer au niveau des ombres, donc dans les travaux préparatoires avant que les assises ici se tiennent. Mais vous verrez bien que le pourcentage d'exécution de la mise en œuvre de ces recommandations qui avaient été prises lors de ces travaux sont très faibles. Très faibles. On ne saurait pas donner le pourcentage ici. Donc nous croyons aujourd'hui comme syndicat des magistrats que nous attendons à ce que l'on puisse, comme le chef de l'État l'avait dit lors de l'ouverture de ces travaux, que nous puissions scruter avec lucidité, honnêteté et beaucoup de courage ce qui n'a pas marché avant et qu'aujourd'hui que nous puissions réellement poser un diagnostic sérieux pour voir dans quelle mesure on peut y apporter une thérapie du choc. Et d'ailleurs, s'il voudrait que je puisse avancer, le chef de l'État a instruit, c'est vrai, lors de ces assises-là pratiquement, le gouvernement de pouvoir tenir en compte les dépôts, en ce qui concerne le budget d'investissement pour le pouvoir judiciaire, pour arriver à construire des bâtiments à travers la République. Donc, déjà là, je crois que ces États généraux ne seront pas des États généraux en plus, mais bien, comme le chef de l'État l'a dit, on vient, nous évaluons ce qui avait été fait en 2015, mais au-delà de ce qui a été évalué, que nous puissions déceler d'autres problèmes qui minent la justice de notre pays pour voir dans quelle mesure on pourrait y apporter les remèdes qu'il faille plutôt pour que nous puissions dire qu'aujourd'hui, la justice qui était, comme on le dit, hein, le terme, on dit malade, donc c'est vrai, il y a des problèmes, mais bon, et qu'on puisse donner les remèdes qu'il faut pour que cette justice puisse reprendre sa santé.
Voilà. C'est quoi, selon vous, ces problèmes qui minent la justice congolaise aujourd'hui, Henri Dianda? Qu'est-ce qui devrait changer?
Les problèmes qui minent. Il y a eu des débats. Vous avez suivi qu'il y a eu des discours, si nous voulons suivre seulement les discours d'ouverture. C'est vrai que les gens se basent un peu plus sur les faits qui gangrènent notre société, c'est notre société toute entière, la corruption. Mais vous savez que le juge, c'est celui qui doit pouvoir, c'est le prêtre. Le juge, c'est le prêtre. Il doit pouvoir être un homme qui puisse essayer de refléter un homme moyen dans sa moralité, dans son éthique, dans une société. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes dans la moralité du juge, ou le magistrat plutôt, qui puisse tomber dans ce que fait le commun mortel, je crois que c'est clair que les gens vont pointer du doigt que non, voilà, c'est eux qui doivent pouvoir remettre la paix sociale, puis se comporter aussi comme tout le monde. Donc, nous pensons qu'il est bon que nous puissions dire chez nous, c'est plutôt les conditions socio-professionnelles des magistrats. Je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a chuté, disons, à la fin de son speech. Il a bien évoqué les problèmes qui minaient la magistrature. Le problème de primes de brousse qui doit, par exemple, pouvoir être créé aux magistrats qui sont dans l'arrière-pays pour les encourager parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, mais également une rémunération qui puisse conforter leur indépendance. Ça, c'est dans les instruments internationaux. Je crois que Maître Kilolo vient de parler, de dire comment est-ce que nous devons pouvoir ratifier les instruments internationaux qui font partie intégrante de notre arsenal juridique ici, pour que le juge ou le magistrat congolais, au regard de ce qui est arrêté par des standards internationaux, puisse savoir pour le conforter dans son indépendance et pouvoir attendre de lui les résultats escomptés. De l'autre côté, c'est vrai, vous savez, quand vous donnez la carotte, de l'autre côté, il y a aussi la sanction. Je crois que le chef de l'État a mis tout le monde à, comment dire, il a demandé à ce que les magistrats puissent pouvoir se comporter comme il se doit. et que cette fois-ci, ce n'est, il n'y a pas de, d'avertissement à donner. Donc voilà un peu, hein, pour être équilibré dans ce que l'on doit dire, c'est que tu dois me résumer que le ministre d'État, le ministre de la Justice, a épinglé à l'issue de son discours les conditions des magistrats qui doivent pouvoir être améliorés. Je crois qu'à côté de ces conditions-là, c'est vrai, la sanction suivra, et nous sommes toujours dit qu'il faudrait que le pouvoir judiciaire puisse avoir un budget conséquent pour conforter non seulement l'indépendance des magistrats, comme nous le disons, mais également dans la discipline des magistrats. Nous vous disons aujourd'hui, c'est vrai, on veut dire que non, il y a les magistrats qui ont commis tel fait, qui doivent pouvoir répondre de ces faits devant la chambre de discipline. Mais ces chambres de discipline, aujourd'hui, sont pratiquement inopérationnelles, faute de moyens. Donc, regardez, nous devons pouvoir poser, c'est vrai, ce diagnostic-là, sérieusement, mais apporter des solutions à l'issue, au bout de nos travaux.
Ernest Pararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. Quel est votre avis sur l'organisation de ces états généraux de la justice?
Oui, merci beaucoup madame, et bonsoir aux collègues, aux orateurs avec qui je suis en train de débattre ce sujet. Et effectivement, je suis partie prenante aux états généraux de la justice, et j'ai bien suivi les discours du chef de l'État et les discours du ministre d'État et ministre de la Justice. Et je tiens à remercier M. Blaise de Matadi qui a peur que nous ne restions que dans les discours. Et effectivement, moi aussi j'ai craint à ce que nous puissions rester dans les discours, étant donné qu'il y a des faits déjà que le ministre, que le président devrait dire aujourd'hui pour montrer sa bonne volonté à réformer les secteurs judiciaires. Par exemple, dans les rapports d'évaluation de la politique nationale de réforme de la justice, il est dit que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de budget. Ça, c'est un fait. Ils n'ont pas d'argent pour fonctionner. Ils n'ont pas d'argent pour envoyer des missions à l'intérieur, pour contrôler, pour sanctionner. Ils n'ont pas cet argent-là. Deuxièmement, il y a eu des recrutements de 2500 magistrats. Les 2500 magistrats, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils ne sont jamais nommés. Donc le chef de l'État devrait dire aujourd'hui que non, à partir d'aujourd'hui, demain, je signe une ordonnance pour nommer les 2500 magistrats. Est-ce que cela nécessite un État général? Non. Troisièmement, on devrait interdire les interférences politiques. Le chef de l'État, dans son discours, devrait dire aujourd'hui: moi, président de la République, de la RDC, ma famille, mon gouvernement, tous les acteurs politiques doivent être interdits d'interférer dans les décisions judiciaires. Est-ce que cela demande à ce que nous ayons des discours comme ce que nous avions entendu? Non. Et troisièmement, pour sanctionner les magistrats ou promouvoir ceux qui sont de bons magistrats, est-ce que cela demande à ce que nous ayons des états généraux? Non. Donc c'est ce qui fait que, effectivement, nous, en tant que société civile, nous pensons que nous risquons encore d'avoir des recommandations théoriques, et effectivement, l'application de ces recommandations risque d'être non appliquée. Le ministre de la Justice, il devrait venir nous dire, à part les prisons, il devrait nous dire: écoutez, le gouvernement s'est engagé à construire X ou Y maisons judiciaires, les parquets, les tribunaux, ainsi de suite. Est-ce qu'il a fait? Non. Le ministre devrait nous dire: à partir d'aujourd'hui, voici le nombre de greffiers, voici le nombre de greffiers ou d'agents ou de la police judiciaire où nous avions construit des maisons. Vous voyez nos OPJ dans les quartiers, ils sont dans les conteneurs. Combien d'OPJ ont des bureaux dans nos quartiers? Absolument rien. Maintenant, ces gens qui travaillent dans les conteneurs, vous voulez qu'ils puissent nous donner quel type de jugement? Vous voulez qu'ils puissent rendre quel type de jugement? Non.
Mais est-ce que ce n'est
ils
pas
sont
à
dans
cause,
la corruption totale?
Ce n'est pas à cause de tous ces mots que vous dérangez qu'il était peut-être important ou nécessaire d'organiser ces états généraux de la justice?
Non, on devrait déjà passer aux actions. Est-ce que pour construire des bureaux de la police judiciaire, ça demande qu'il y ait des états généraux? Est-ce que pour payer les magistrats, pour engager les magistrats, est-ce que ça demande qu'il y ait des états généraux? Est-ce que pour donner le budget au Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que ça demande vraiment qu'il y ait des états généraux? Non, on devrait venir maintenant nous dire, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, voici ce que nous avons, voici le ministre ce qu'il a fait. Il a construit tel tribunal, il a construit tel tribunal, tel parquet, on a engagé des... C'est le discours que nous devrions nous voudrions entendre. Pas les discours de faire des constats, et les constats que nous savons, et les constats qui sont dans les recommandations de 2015. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a absolument rien. Et c'est ce qui fait craindre notre collègue, notre ami, notre frère Blaise de Matadi, pour dire que nous risquons de rester dans les discours et les recommandations ne seront jamais appliquées. J'ai entendu...
Et donc, vous ne voyez pas l'opportunité de ces assises?
On doit se rencontrer, ce n'est pas mauvais, mais il faut déjà que les hommes politiques, que le président de la République, le ministre de la Justice puissent déjà sonner les glas, puissent donner des injonctions pour dire, écoutez, moi, président de la République, j'interdis ma famille, j'interdis mon gouvernement, j'interdis tous les acteurs politiques congolais d'interférer dans les décisions judiciaires. Ça, c'est un signal fort que le président lancerait. Or, il ne l'a pas fait. Vous voyez ? Or, les magistrats, lorsque nous discutons avec eux, lorsque nous parlons avec eux, ils nous disent quoi ? J'ai reçu un coup de fil de X, j'ai reçu un coup de fil de Y. Et ce sont ces interférences politiques qui amènent à l'impunité. Aujourd'hui, depuis 2018, depuis que le chef de l'État est là, il y a eu des centaines de cas de corruption qui ont été amenés devant les cours et tribunaux. Mais allez à Makala, regardez combien qui ont été condamnés. Ils sont peu. Sur 100, peut-être ils sont une dizaine. Les autres, tous, on les a libérés. Et l'argent qu'ils ont volé, personne n'a récupéré cet argent-là. C'est ça ce que nous voulons pour dire, écoutez, voici les actions que je pose, et ces actions-là vont dans l'intérêt de la population. Et c'est ce qui va faire que nous croyons à ces états généraux qui sont en cours aujourd'hui. Mais nous risquons effectivement d'aller là-bas, faire des discours, et après on rentre et on oublie.
Merci Ernest Pararo, vous êtes très nombreux, auditrices, auditeurs des radios Capi, scotchés, en train de suivre cette émission, et même sur la page Facebook, ainsi que sur notre compte YouTube, vous nous suivez en direct. Merci beaucoup. On va ouvrir notre standard pour donner aussi la parole aux auditeurs qui nous suivent, qui veulent donner leur avis par rapport aux états généraux de la justice. On va se rendre à Isangi, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Peter Wenda, depuis Isangi, dans la province de la Tchopo. Cette énième organisation des états généraux de la justice n'est rien d'autre qu'un chapelain de bonne intention, car cette dernière n'est pas une nouveauté pour les Congolais, moins encore une piste de solution pour remédier l'image ternie de la justice congolaise. Ainsi, nul n'ignore que la RDC en général et la justice congolaise en particulier n'a jamais eu un problème de texte ou de loi, mais plutôt des vrais hommes de droit pour dire les droits et des vrais hommes d'État intègres et consciencieux. Dans un pays où l'impunité, la corruption et le détournement constituent un mode de gouvernance, j'affirme que les recommandations même qui seront ici de ces assises seront ni essence de fait, car ça sera pour nos politiques scier la branche d'arbre sur laquelle ils sont assis. Moi, je pense que si la justice congolaise demeure malade jusqu'à ce jour, c'est parce que cette dernière est prise en otage par les hommes politiques et non des hommes de temps et de droit.
Maître Kilolo, la justice est prise en otage par les hommes politiques. Ernest Pararo l'a répété aussi. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème finalement?
Moi je pense que le vrai problème, c'est celui que l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a commencé déjà à réparer. Je vous dis par exemple que un certain nombre de décisions judiciaires frauduleuses, biaisés à dessein, se mettent régulièrement à ordonner la saisie des avoirs en banque des entreprises publiques de l'État qui sont appelées à exercer des missions cruciales d'intérêt public. Je vous parle par exemple de la régie des eaux qui doit s'assurer de la fourniture en eau partout, y compris dans les lieux les plus reculés. Je vous parle de la SNEL qui doit desservir en électricité, mais plusieurs autres. Mais ces sociétés ont souvent des difficultés. Parce qu'ils vous disent, mais nous n'avons plus d'argent. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que une personne qui avait une créance au départ de 100 000 dollars se retrouve créancier de 10 millions de dollars Et si on ne paye pas, on saisit à travers des astuces de montage judiciaire qui relèvent plutôt d'une mafia qu'il faudrait éradiquer. La réponse concrète que le ministre d'État a donnée à cela, c'était de proposer l'adoption d'un décret portant protection du patrimoine public de l'État qui rend désormais insaisissables les biens et les avoirs de l'État. Voici une réponse concrète qui n'a pas attendu les États généraux. Un autre cas, c'est celui justement du fait que généralement il y avait des détournements systématiques des frais des justices et des frais administratifs du secteur de la justice. De sorte que lorsqu'il faut payer par exemple des amendes, lorsqu'il faut payer des transactions au niveau de la justice, lorsqu'il faut payer tout simplement des frais pour obtenir un document quelconque, eh bien ce qui s'est passé de manière systématique, c'est qu'on vous demande 20 $, 30 $, 50 $ ou 100, mais en réalité vous le payez à la main. Vous n'avez pas un reçu, un document qui établit que c'est versé dans le compte du trésor public, de sorte que c'est de l'argent qui disparaît en fait dans les poches des particuliers et qui fait perdre de l'argent qui aurait pu justement être mobilisé pour commencer à construire, pour commencer à améliorer la situation, les conditions de vie notamment de prisonniers. Et je rappelle ici, une des réponses que le ministre de la Justice a donné, c'était notamment, on a vu, de commencer à réhabiliter Bacala, de commencer à justement à approvisionner les espaces de vie dans les cellules, notamment de matelas qui permettraient aux gens de ne plus dormir sur le sol comme des animaux. Donc voilà des réponses concrètes que le ministre est en train d'apporter.
Mais c'est ce que est en train de dire.
Oui, donc qu'il soit plutôt rassuré.
On connaît les mots, pourquoi ne pas les combattre directement?
Mettons-nous d'accord. Je pense qu'il faudrait déjà commencer à constater et à reconnaître les efforts qui sont fournis aujourd'hui par le gouvernement à travers le ministère de la Justice au regard de réponses concrètes qui sont données et qui aujourd'hui, je vais dire, une large ou la quasi-totalité de la population soutient. Alors cela étant dit, il y a malheureusement certains autres aspects qui requièrent un certain nombre de modifications. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'on prend par exemple, il y a eu des tensions, tout le monde le sait, entre le ministre de la Justice et le magistrat du parquet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que le ministre de la Justice s'est mis à donner notamment un certain nombre d'injonctions au parquet en leur demandant, écoutez, poursuivez tel ou tel cas où je constate qu'il y a des indices sérieux avérés de détournement de biens de l'État. À un moment donné, au niveau du parquet, il y a eu comme une forme de levée de bouclier pour dire, le ministre de la Justice ne peut pas, nous dépendons du pouvoir judiciaire et donc nous bénéficions de l'indépendance et de la séparation de pouvoir. Alors que lorsque vous regardez en France, vous verrez par exemple que le président de la République est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous verrez par exemple qu'en France, le ministre de la Justice a un rôle plus accru au regard de ce qui se passe au Congo, sur la carrière, la gestion de la carrière des magistrats, a aussi un pouvoir disciplinaire, notamment de sanctionner de magistrats véreux qui s'adonnent à des actes de corruption. Et donc, je dirais ici, il y a une nécessité, évidemment, de faire évoluer notre droit. Alors, vous allez voir que, par exemple, notre Constitution, l'article 149, est clair depuis 2011, qui dit que qui décrit les organes qui font partie du pouvoir judiciaire, ce sont uniquement les cours et tribunaux à l'exclusion du parquet. Mais il y a encore une ambiguïté parce que lorsque vous lisez par contre l'article 152 de la même constitution, on vous parle du Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire qui compte en son sein les procureurs généraux près des cours d'appel notamment. Et donc, ça somme, il y a une ambivalence, il y a donc un besoin de soumettre une telle question cruciale aux états généraux de la justice, que tout le monde en discute.
Pour que cette disposition soit revisée
Oui, parce qu'il faut se poser...
Vous pouvez la parler de la révision de la Constitution.
Il faudrait notamment trouver une cohérence entre les différentes dispositions constitutionnelles qui amènent justement à des interprétations controversées et qui nous plonge dans une forme de crise qu'il faudrait absolument éviter. Mais ceci, mais ça passe par des états généraux de la justice. Voici des exemples concrets. Merci. Pour dire qu'il faut faire les deux. Et je rappelle encore ici qu'il y a d'autres questions qui doivent être posées. Par exemple, permettez-moi de terminer par là. Vous savez que le budget, par exemple, réservé au secteur de la justice ne représente que 1,7% de tout le budget de l'État. Mais cette question n'a pas été traitée comme il fallait en 2015. On aurait jamais dû proposer 250 recommandations sans avoir tenu compte de cette difficulté de prévision budgétaire qui allait faire que cela n'allait jamais être appliqué.
Merci, maître. En parlant de la révision ou de la modification de la Constitution, il y a cet auditeur, Fabrice Debo, depuis Kisangani, les coordonnateurs du Parlement d'enfants et des jeunes. Nous saluons l'organisation de ces assises et nous souhaitons voir la guérison de cette justice, car seule la justice et l'administration, cette justice doit également être indépendante dans les traitements des dossiers. Cependant, nous attirons l'attention de l'équipe gouvernementale de la réalité actuelle qui n'a aucun rapport avec la modification de la Constitution plutôt que de la guérison de l'injustice. On ne va pas revenir sur ça parce que vous avez évoqué, vous avez donné les raisons pour lesquelles il fallait réviser cette disposition de la Constitution. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle de Bukavu, au sud Kivu.
Jean Jado Igilima, à partir de Bukavu, en province du Sud-Kivu. L'organisation des États généraux de la justice est une bonne chose. Néanmoins, les thèmes choisis suscitent un questionnement qui, à mon avis, n'a pas raison d'être. En effet, si on reconnaît déjà que la justice est malade, donc on reconnaît aussi la cause de cette maladie et de surcroît, la thérapie aussi sera facile. Je souligne ici que la maladie de la justice dans notre pays est causée par la dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Ce dernier a toujours considéré la justice comme un instrument pour régler des comptes aux opposants. Au lieu d'être au service du peuple, les magistrats sont au service du régime qui leur fait des injonctions de condamner tel ou d'acquitter tel autre. Le procès 100 jours en est un exemple éloquent qu'aucun Congolais n'a pas encore compris jusqu'aujourd'hui.
Henri Dienda, réaction. Henri Dienda, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, l'oratrice.
L'auditeur de Bukavu.
De Bukavu. De Bukavu. Et ce que nous pouvons dire, c'est que là, c'est vrai, on parle de la politisation. Bon, c'est parmi les... comment on peut dire ça? C'est parmi ce que les gens ont pu relever, je sais pas, dans leur discours sur la politisation des acteurs judiciaires. Bon, ça, nous avions dit que nous sommes aux états généraux pour que nous puissions diagnostiquer, poser un diagnostic. C'est voir ce qui ne marche pas, relever ce qui ne marche pas, et voir dans quel sens on peut y apporter des solutions idoines, comme on le dit, bien apporter des remèdes. Donc, je crois que nous sommes qu'au début. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de ces travaux. Et le chef de l'État, vous avez suivi le chef de l'État. Que ce soit tous les orateurs qui en sont intervenus lors de l'ouverture ici, le président du Conseil supérieur de la magistrature lui-même, qui a parlé de 350 des résolutions de l'État général de 2015, le bâtonnier national est revenu, le chef de l'État sans embâche, en disant que voilà, au-delà de ces 350 résolutions, que nous allons en déceler d'autres, et que lui, il a dit qu'il était aujourd'hui, là je reviens, non pas pour des raisons, disons, pour des simples raisons protocolaires, mais c'est bien un symbole d'engagement de celui qui est le magistrat suprême à ce que la justice de son pays aille de l'avant. Voilà, donc nous croyons qu'il faudrait peut-être revenir à la fin de ces travaux pour voir ce qui a été décidé et après voir comment est-ce qu'on va commencer à poser des actions concrètes pour aller dans le sens de ce que nous voulons de la justice de notre pays. Voilà.
Paulin Senga-Ngabo de Kisangani, dans la province de la Tchopo. La justice élève une nation, dit un adage. Cependant, l'organisation de ces états généraux est une bonne chose, mais aussi longtemps que les normes qui régissent les différents secteurs sont piétinées par certaines personnalités politiques, par ceux qui ont beaucoup de moyens. Moi, je pense que ces états généraux viennent juste de s'ajouter dans les annales des autres états généraux. Le législateur congolais a presque tout prévu. Il reste juste l'application et le respect de ces normes. La justice est aussi travaillée pour les peuples que pour les intérêts familiaux. Comment on peut avoir une différence très élevée en matière de salaire des fonctionnaires? Un médecin qui touche environ 330 000 francs comme salaire, mais d'autres fonctionnaires touchent 21 000 $. Est-ce vraiment ça, la justice? On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kisangani, dans la province de la Tchopo également.
Prof. Henri Kassongo Moulenda de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Je salue la tenue des états généraux de la justice dans notre pays, mais le vrai problème reste la prise en compte des résolutions qui seront issues des états généraux. La maladie de notre justice est due à la classe politique congolaise. Aujourd'hui, pour bénéficier d'une justice équitable, il faut appartenir à une classe politique du pouvoir ou être de la famille d'un politicien. Pour pallier ce problème, il faut aussi revoir la politique de recrutement des magistrats, car certaines nominations aujourd'hui tiennent compte des quotas politiques et non de la méritocratie. Nous avons vraiment besoin d'une justice indépendante et non une justice à double vitesse.
Ernest Omparao, bref commentaire.
Merci beaucoup, madame. Je vais revenir un peu sur ce que Maître Kilolo avait dit. Effectivement, je suis d'accord avec l'auditeur qui venait de donner son point de vue. Et c'est ça le point de vue que je voulais dire. Et je voulais d'abord revenir sur ce que Maître Kilolo avait dit. Effectivement, le ministre a pris des arrêtés pour protéger les biens de l'État, mais il a oublié de prendre aussi ou de demander la poursuite des personnes qui ont été à la base de ces saisies illégales. Il a oublié. Il a oublié prendre aussi des mesures ou des sanctions contre ceux qui détournent les fonds publics. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, la Cour des comptes venait de publier un rapport dans le secteur judiciaire, seulement sur la ville de Kinshasa. Et quelles sont les poursuites qui ont été prises? Est-ce qu'il faut des états généraux pour cela? C'est ce que nous disons. Nous disons que on ne refuse pas qu'il y ait des états généraux, mais pour montrer qu'il y a des changements, pour montrer qu'il y a la volonté politique, il y a des actions que le pouvoir politique devrait déjà poser. Et parmi ces actions, nous citons les sanctions contre tous ceux qui violent les lois. Nous disons que, comme les auditeurs venaient de le dire, que le président puisse interdire les interférences politiques. C'est ce qu'il est en train, les auditeurs sont en train de dire. Est-ce que Maître Kilolo peut nous dire dans des dossiers des avocats, il n'a jamais été témoin ou victime d'une intervention politique dans ce pays? Il connaît. Effectivement, comme il est devant il est à côté du ministre, c'est tout à fait normal. Mais il sait noir sur blanc et les magistrats qui sont avec nous sont au courant de toutes ces interférences politiques. Et c'est ce que nous voudrions d'abord voir. Le président aujourd'hui devrait venir nous dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'interdis mon cabinet, j'interdis tous les ministres, j'interdis tout le membre de ma famille d'appeler des juges et des magistrats. Et tout le monde, les juges qui sont les magistrats qui sont aux états généraux, écouteraient et ça les appuierait et à dire les droits et la loi. Mais qu'est-ce qu'on a promis? Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vont exécuter? Regardez le budget 2025, si les investissements sont ressources propres, je ne pense pas qu'on va construire 20 à 30 tribunaux. Je ne pense pas. Si le budget 2025, est-ce qu'on a augmenté les salaires déjà? Je ne pense pas. dans le budget 2025, peut-être le syndicaliste est là, il peut nous éclairer. Ça, c'est un exemple concret. Nous ne disons pas des choses qui sont, que nous nous promettons, parce que les gens ont entendu des discours et des discours, et nous sommes fatigués par les discours. Nous voulons des actions.
Merci.
Par exemple, s'il y a des membres des magistrats qui sont coupables, qu'est-ce qu'on fait? Le président doit dire, ou le ministre doit dire, écoutez, tel magistrat, tel doit être puni. Si le conseil supérieur ne s'exécute pas, le ministre doit faire rapport au président. C'est ça le rôle du ministre. Mais qu'est-ce qu'on on constate? On constate qu'on met des lois pour dire, écoutez, mais ceux qui violent la loi, on ne s'intéresse pas à eux. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc, il y a l'impunité qui est totale et causée par les hommes politiques, parce que ce sont ces hommes politiques-là qui interfèrent dans les décisions judiciaires. Vous Merci. Ne verrez pas Ernest intervenir, vous ne verrez pas l'avocat, le magistrat qui est avec nous, il connaît. Il a l'expérience,
Merci, il a l'expérience.
Ce sont des cas qu'il connaît très bien.
Merci beaucoup, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous demander vraiment d'être concis. Il y a le chef des travaux André Lunga Ndaba depuis Kinshasa, il est analyste politico, socioculturel et environnemental, qui pense qu'en soi, cette justice n'est pas et n'a jamais été malade. Ce sont plutôt des hommes maladroits, n'ayant aucun respect des textes, ni fidèles à la science et même à leur conscience, qui se moquent des faibles. Ce sont des politiciens qui interfèrent dans ce domaine et qui ne payent pas bien ces agents. Alors c'est le point de vue du chef des travaux André Ilunga depuis Kinshasa. Maître Kilolo, qu'est-ce que vous attendez des participants, de ceux qui participent à ces assises?
Merci beaucoup. Je voudrais simplement clore mon propos en disant que lorsque l'on observe aujourd'hui les efforts qui sont en train d'être déployés au niveau du ministère de la Justice, l'on voit par exemple que le ministre est en train aujourd'hui de se porter en défenseur des pauvres, des opprimés, des laissés pour compte. Mais je pense notamment à ces orphelins qui sont victimes régulièrement, au mépris du droit de succession et du droit de propriété, mais des spoliations. Spoliations à travers, je dirais presque une entreprise criminelle qui implique des huissiers de justice, des avocats, des notaires, des magistrats du siège tout comme du parquet qui font que à un moment donné le plus offrance vient se spolier, devenir propriétaire à la faveur de jugements pris totalement au mépris de toutes les règles de droit. Donc aujourd'hui je pense que ce que nous attendons de tous les panélistes et de tous les participants aux états généraux, c'est deux choses. Premièrement, faire un diagnostic sans complaisance de tous les maux. Diagnostic veut dire on identifie les dysfonctionnements et aussi en même temps on identifie quelles sont les causes de ces dysfonctionnements. Et enfin, on formule des recommandations sous forme des lois éventuellement qu'il faut prendre, mais ça peut aussi être sous forme d'actions politiques qui doivent être menées de façon prioritaire par le ministre de la Justice. Lorsque l'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, oui, c'est extrêmement important, mais vous comprenez que lorsque, par exemple, l'on parle de spoliation ou même de gestion opaque dans la carrière des magistrats, on laisse au Conseil supérieur de la magistrature de désigner, de proposer la promotion en grade, la nomination de nouveaux magistrats. Malheureusement, ça se fait parfois au détriment de la méritocratie sur base de clientélisme, de favoritisme. Donc je pense véritablement qu'il y a un problème de conscience, il y a un déficit de formation, non seulement de formation juridique, mais aussi de formation d'éthique, en déontologie, qu'il faudrait renforcer. Mais je dis encore une fois, ce n'est pas un tribunal à charge de magistrats, c'est véritablement un lieu de concertation où tous les acteurs de la justice, au-delà de magistrats, en incluant même les autorités politico-administratives et les législateurs, doivent se parler, trouver des solutions. Soyez sûr d'une chose, c'est que le ministre d'État, Constant Mutamba, est effectivement déterminé à mettre
en application des actions concrètes immédiatement, telles qu'il a commencé à le faire maintenant et telles qu'il va le poursuivre en attendant la fin des états généraux.
Merci, maître Aimé Kilolo. Héritier Tantou, qui nous écrit depuis Kinshasa, c'est un internaute, depuis la page Facebook de Radio Capi. Il est vrai que dans notre pays, la RDC a beaucoup à réparer, mais ne soyons pas toujours pessimistes, mais plutôt optimistes et encourageons les bonnes initiatives de nos ministres qui se démarquent. Henri Dianda, votre conclusion.
Merci. Pour la parole. En termes de conclusion, je ne peux dire que nous sommes venus pour faire un état des lieux de la justice de notre pays, pratiquement 9 ans après que les états généraux soient tenus ici au pays. Ce que nous allons pouvoir évaluer, ce qui avait été fait, ce qui n'a pas été fait, s'il y a de nouveaux problèmes que nous pouvons avoir au jour d'aujourd'hui, et voir par la suite, avec la volonté du gouvernement, du chef de l'État, magistrat suprême, qui a parlé sans embâche, toute sa ferme volonté de pouvoir changer les choses, et pour que nous puissions avoir une justice saine, je croyant que nous pouvons nous attendre à un résultat. Pour le dernier intervenant, je crois qu'il n'est pas mauvais à ce que chaque fois que nous puissions discuter des problèmes de notre société, et je crois que ce n'est que de bonne guerre que nous puissions discuter.
Merci Henri Dianda. Henri Carbanza depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga. Nous saluons positivement ces états généraux. Nous estimons que c'est dans ces cadres qu'ils peuvent se dire la vérité sur la maladie de la justice. Ernest Mpararo, votre mot de la fin.
Oui, pour nous, société civile, oui, il faut qu'on se parle, il faut qu'on évalue, oui. Mais il y a quand même des actions que le pouvoir politique devrait poser pour montrer qu'ils sont pour la réforme du secteur judiciaire. Or, ces actions ne se voient pas. Ces actions ne sont pas posées. J'ai déjà donné des cas. Par exemple, dans les rapports d'évaluation, on dit que la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de financement. Or, nous savons qu'il y a des institutions qui sont budgétivores, c'est le budget de l'État. Ils sont en excédent, en dépassement budgétaire. Nous les savons. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voudrions effectivement que les interférences politiques cessent. C'est ça, le président doit dire tout haut. Il doit dire aux Congolais, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je demande à tous les magistrats de ne plus accepter les appels des politiques, des membres de sa famille, des conseils à la présidence ou à la primature.
Troisièmement, Ernest Mpararo.
Et troisièmement, il faut effectivement augmenter les budgets, construire les infrastructures, parce qu'en arrière-pays, il y a des endroits où il n'y a même pas de tribunal, où tu dois faire 50 km pour aller voir un juge. Il faut augmenter les budgets. On diminue les frais de fonctionnement des institutions politiques, on réhabilite les infrastructures. Ça peut se faire. Nous avons 20 milliards de dollars et si on distribue très bien, on peut aussi construire dans les 5 prochaines années, on peut construire 100 à 150 tribunaux ou parquets.
Merci Ernest Mpararo, merci à John Tshisekedi qui nous suit depuis Kinshasa, cherchant le vrai remède pour guérir la justice et non trop de dialogue. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci aux invités d'avoir pris part à ce débat. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On va organiser d'autres émissions sur ces états généraux. Ne vous inquiétez pas, maître Kilolo. Comme je l'ai dit, il y aura d'autres émissions sur ces états généraux. Ça, ce n'est que le premier jour, hein, le lancement, l'ouverture des travaux. Tout au long des travaux, il y aura des panels et tout, des discussions sur certains points. On sera là pour suivre vraiment l'évolution des travaux. Je disais que c'était la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Martin Sabouchango a supervisé ce programme. Coordination et présentation, Kelly Nkouté. Guy Baté a réalisé ce magazine. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde. Jonathan Fonani, Hervé Voka et Clément Chimanga étaient derrière les caméras. Merci aussi à Arcel Kajourou qui a assisté Guy Maté dans la réalisation. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.
Merci.